pourrait laisser entendre que j'ai une quelconque contribution dans sa conception, j'en ai eu aucune, mais en tout cas de discuter avec moi, et je pense que c'est un très bon précédent du dialogue entre les disciplines. On a vraiment là un point d'intersection, un point de croisement à partir duquel on peut dialoguer. Je pense que c'est extrêmement précieux. Alors, dans ce colloque consacré au constitutionnalisme global, et dans un panel qui est composé de membres non représentants de deux versions du constitutionnalisme global, qui ne sont pas évidemment identiques, mon intervention va paraître peut-être un peu en décalage, et c'est sentant ce risque de décalage, sans doute, que l'organisatrice de ce colloque a proposé pour moi ce titre, une théorie non constitutionnaliste de la Constitution internationale. J'ai trouvé que c'était un excellent titre, je l'ai tout de suite adopté sans discuter, parce que, en effet, je ne vais pas traiter dans cette intervention du constitutionnalisme global, mais de la Constitution internationale. Alors, quelle distinction entre ces deux termes? Grosso modo, j'entends par constitutionnalisme un projet, une doctrine, un discours, tandis que la Constitution, on ne parle, est une réalité du droit positif. La théorie que je défends part en effet du constat qu'il y a toujours eu une Constitution en droit international, et ceci depuis qu'il existe une société internationale comme milieu intersocial, pour reprendre d'emblée le langage de Georges Sèvres. Il s'agit donc bien d'une théorie non constitutionnaliste, parce qu'elle ne prône pas la réalisation innée, mais s'entend plutôt comme une grille de lecture de la réalité du droit international d'hier et encore davantage d'aujourd'hui. Et pour reprendre, j'y reviendrai peut-être tout à l'heure, la discussion description, prescription et frontières de l'objet de la science du droit, je m'inscris à travers cette théorie plutôt dans une dimension descriptive, donc plutôt côté Kelsen, mais mon objectif est définitivement Kelsen. Et en tout cas, en fait, c'est un objectif qui était, on l'a vu hier, aussi partagé par Kelsen, mais disons que, j'expliquerai tout à l'heure, pour moi, la théorie de la Constitution, c'est avant tout un outil pour l'action, pour savoir où nous sommes et pour se demander où on va. Et pour éventuellement concevoir de manière structurée des programmes d'action pour l'avenir. Alors, cette théorie de la Constitution, elle trouve sa base, en tout cas un de ses piliers, dans la pensée de Georges Sèvres. Effectivement, nous allons revenir à Georges Sèvres. Je vais, pour l'expliquer, faire valoir trois différences entre le courant constitutionnaliste et la pensée de Georges Sèvres à propos de la Constitution internationale, qui explique pourquoi on peut qualifier une théorie qui part de Georges Sèvres de non-constitutionnaliste, mais davantage comme une théorie de la Constitution. Et puis, si j'ai encore quelques minutes à la fin, je ferai une esquisse du prolongement de cette réflexion, puisque je pars de Georges Sèvres, mais je trouve aussi à Georges Sèvres beaucoup, à la pensée de Georges Sèvres beaucoup, hein, un certain nombre de défauts, et ça m'amène à formuler une théorie autre qui emprunte aussi, notamment, à Kelsen et à Habermas. J'essaierai de la figurer à travers quelques schémas que vous allez trouver extrêmement critiques et incompréhensibles, mais dont vous pourrez trouver utile à travers la lecture d'un article qui est publié et que je tiens évidemment à votre disposition. Donc en fait, c'est plutôt du teasing, une véritable présentation de la théorie à laquelle je vais me livrer. Alors, trois différences qui caractérisent la théorie non constitutionnaliste de la Constitution telle que conçue par Georges Sèvres. Première différence, Georges Sèvres conçoit la Constitution comme technique juridique et non comme l'émanation d'une communauté, comme l'expression d'une communauté. Alors, pour expliquer cette différence, il faut dire d'abord qu'il y a un point de départ commun entre les constitutionnalistes et Georges Sèvres. C'est part, la distinction classique qu'on retrouve d'abord chez Ferdinand Tenies, un sociologue, entre Gemeinschaft et Gesellschaft, pardon, j'aurais pu le dire en français et demander la traduction à cet homme, Gemeinschaft und Gesellschaft, et qui fait écho elle-même à la distinction, qui est d'ailleurs en partie inspirée de Tenies, qui a élaboré Durkheim, qui ne la recoupe pas totalement, mais qui la recoupe en partie, donc qui est moins finaliste que celle de Tenies, de Durkheim, entre solidarité organique et solidarité par division du travail. Et c'est cette distinction entre solidarité organique et solidarité par division du travail qui a essentiellement inspiré d'abord Guy, et puis ensuite son disciple, Georges Sèvres, et c'est à cette distinction qu'ils font essentiellement référence. Donc, premier point de convergence entre les constitutionnalistes et Georges Sèvres, c'est ce point de départ, la distinction communauté-société, la distinction division, solidarité par division du travail, par similitude, ou par solidarité organique, et solidarité par division du travail social. Alors, deuxième similitude, deuxième point commun, c'est l'idée que se font les constitutionnalistes et Georges Sèvres du sens de l'évolution de la société internationale qui va dans le sens inverse de l'évolution des sociétés nationales. Alors je m'explique sur ces deux points. D'abord, communauté et société. Par communauté, grosso modo, hein, et par solidarité, par similitude, on entend la formation d'un groupe humain sur la base de valeurs, de convictions communes, croyance commune, donc au fond, si vous voulez, c'est une solidarité quasi émotionnelle, quasi instinctive, quasi spontanée. C'est parce qu'on se ressemble que l'on s'assemble, d'une certaine manière. La solidarité par division du travail, elle naît à partir du moment où des groupes sociaux, donc homogènes, caractérisés par une similarité, par une solidarité par similitude, par une similarité organique, à partir du moment où ces groupes sociaux se rencontrent et doivent travailler ensemble dans un intérêt commun. Alors, ce n'est pas une solidarité par amour, si vous voulez, hein, ce n'est pas qui se ressemble, s'assemble, mais c'est une solidarité par intérêt. Donc, c'est une solidarité raisonnable qui rappelle un petit peu l'insociable-sociabilité de Kant. Et à partir de ce moment-là, il faut trouver un certain nombre de principes communs pour travailler ensemble, et c'est à ce moment-là que naît en réalité le phénomène du milieu intersocial, c'est dans ce sens-là que Sèvres entend le milieu intersocial, c'est plus un milieu social solidarité organique. C'est un milieu intersocial, solidarité par division du travail, et c'est à partir de ce moment-là que naît également le droit. Et si j'y reviendrai, il y a droit, il y a aussi nécessairement naissance de principes et de règles constitutionnelles. Donc ça, c'est la distinction sur laquelle s'accordent à la fois celle et les partisans du constitutionnalisme. Et puis il y a un sens de l'évolution des sociétés, de la société internationale, qui est exactement dans le sens inverse des sociétés nationales. Vous lisez Durkheim et Tenies, on va toujours de la communauté, une solidarité organique, c'est des petits groupes humains qui s'aiment et s'assemblent, à une solidarité par division du travail, au fur et à mesure que la société se développe. Ben, la société internationale, c'est exactement l'inverse. C'est-à-dire que il y a d'abord une société, et on va progressivement vers une communauté. C'est-à-dire que la société internationale, c'est d'abord un groupement d'intérêts, c'est des États qui doivent d'une part coexister, d'autre part se coordonner, coopérer pour des fins d'intérêt commun. Et ça n'est que progressivement qu'ils construisent des valeurs communes et qu'ils vont, par conséquent, ils vont vers la communauté. Simplement, ce qui distingue les constitutionnalistes de celles, c'est que pour les constitutionnalistes, il ne peut y avoir naissance d'une constitution qu'à partir du moment où il y a formation d'une communauté, c'est-à-dire de valeurs communes dans la société internationale. C'est très net dans les écrits d'un grand nombre de constitutionnalistes, depuis Verbrosse jusqu'à Tomouchard, et je pense aussi, elle me contredira si c'est faux, pour Adam Peters et d'autres auteurs qui ont écrit avec elle. Donc, autrement dit, il ne peut y avoir de constitution qu'à partir du moment où il y a véritablement des valeurs communes qui naissent. Tandis que ce bon Georges par excellence de la canalisation du pouvoir dans une société, la régulation du pouvoir, c'est-à-dire l'outil qui, en premier lieu, fixe les règles de la dévolution et de l'exercice du pouvoir dans une société. Voilà, alors là, beaucoup trop loin, hein, c'est on est bien dans ce que je fascine. Donc une citation, la première, de Georges Husserl, « Toute collectivité intersociale, y compris la communauté des nations du droit des gens, repose comme les collectivités mieux intégrées, notamment les collectivités étatiques, sur un ensemble de règles constitutives essentielles à leur existence, à leur durée, à leur progrès, là même où ces collectivités paraissent avoir l'organisation de la pure rudimentaire, que les institutions paraissent inexistantes, les constitutions au sens large, mais au sens juridique, ne s'en révèlent pas moins. » Alors effectivement, deuxième citation, que je ne vais pas lire en entier, mais que je vais simplement résumer, donc là c'est la deuxième citation pour le coup. Georges Husserl fixe comme objet à la Constitution l'organisation du pouvoir à travers l'organisation et les règles qui portent sur l'exercice des fonctions sociales essentielles qui existent dans toute société. On peut résumer comme la fonction législative, l'élaboration des normes, la fonction juridictionnelle, le jugement, et la fonction exécutive, la garantie sociale des situations. Je note d'emblée une originalité de celle, qui est absolument centrale, mais sur laquelle on pourra peut-être revenir dans la discussion, c'est que pour celle, contrairement à d'autres auteurs, c'est très important pour la théorie de la fédération, mais je prends en parlant, puisque Olivier Beau est là, pour Georges Husserl, il peut y avoir, et il y aura un phénomène fédératif, y compris dans des milieux intersociaux très hétérogènes, donc dans des milieux intersociaux qui ne forment pas communauté, qui forment uniquement société, qui ne se réunissent pas autour de valeurs communes. Et de ce point de vue-là, on peut distinguer très clairement la conception de celle et qu'elle seule aussi se font de la fédération, de celle que se fait Schmitt, qui appuie justement ainsi sur la nécessité d'une certaine homogénéité, y compris au sein du phénomène fédératif. C'est absolument fondamental parce que ça permet à celle, par exemple, de défendre le caractère fédératif de la Société des Nations à son époque, et évidemment pour l'Organisation des Nations Unies, comme d'autres organisations, il la placera également sous le thème de la fédération, y compris compte tenu de l'hétérogénéité culturelle de ses membres. Deuxième différence d'approche entre celle et la pensée constitutionnaliste, c'est que la Constitution est un phénomène et non une idée. Alors ça revient un petit peu à ce que j'ai dit tout à l'heure, mais ça veut dire quoi fondamentalement? Ça veut dire, alors là j'utilise une distinction qui a été faite notamment par Samantha Besson, mais par d'autres auteurs, ça veut dire notamment pour les constitutionnalistes, la Constitution, la conception qu'ils ont de la Constitution, c'est une Constitution fake, c'est-à-dire renforcée, qui comprend en son sein tout un appareillage de concepts qui en fait sont propres à la théorie de la démocratie et de l'état de droit, la séparation du pouvoir, la répartition des fonctions entre organes, la rigidité de la Constitution, éventuellement le contrôle de constitutionnalité, etc., etc. Tout ça en fait ce sont des concepts qui sont issus de la théorie politique libérale et qui ont été intégrés progressivement dans le concept de la Constitution de l'état libéral. C'est la conception fake de la Constitution. Alors évidemment, à partir de cette conception, si on l'applique à la société internationale, on ne peut faire une telle conception de la Constitution qu'un étalon de mesure ou un objectif à atteindre. C'est-à-dire que c'est ce par rapport à quoi on compare l'état actuel de la société avec une aspiration qui est progressivement d'instaurer le libéralisme sur le plan international. Georges Husserl a une théorie descriptive, encore une fois, je parlais de réalisme tout à l'heure, je parlais de pragmatisme. Il a une conception fine de la Constitution, une conception qui ne s'encombre pas d'une certaine manière de ce bagage constitutionnaliste, issu de la théorie constitutionnaliste du 18e et 19e siècle. Il considère simplement que la Constitution est, au fond, un outil, une technique juridique qui est propre à tout ordre juridique et qui, je l'ai dit tout à l'heure, porte essentiellement sur l'organisation, la dévolution et l'exercice du pouvoir. conçoit la Constitution comme un processus et non comme un acte. Et ça, ça a déjà été évoqué hier à plusieurs reprises. Il y a, alors encore une fois, ma voisine me corrige ça, mais il y a en tout cas chez un certain nombre d'auteurs constitutionnalistes, en partant de Verdros, en continuant avec Bozima, Christian de Mouchard, une perception d'un moment constitutionnel sur le plan international, et ce moment constitutionnel, c'est la notion de la Charte des Nations. Alors ça ne veut pas dire que pour ces auteurs, il n'y avait pas de constitution avant la Charte des Nations Unies, il y avait des principes constitutionnels en tout cas. Mais, et là, d'ailleurs, c'est plutôt peut-être un emprunt à la théorie constitutionnelle française, je ne sais pas, ou alors un point commun entre la théorie constitutionnelle française et la théorie constitutionnelle allemande. Il y a cette idée que un petit peu le rapport des révolutionnaires avec la constitution de l'ancien régime. Il y avait des principes constitutionnels, mais pas de constitution. Et au fond, la constitution, c'est un moment révolutionnaire, justement, c'est un moment historique qui se situe à un instant T et qui constitue une novation. C'est-à-dire que ce qu'elle crée n'existait pas auparavant sous aucune forme. Alors, selon cette position, la Constitution est le produit d'un acte de volonté et non le produit d'un processus spontané et continu, sauf ensuite, évidemment, à travers le processus interprétatif de la Constitution. Donc, il y a évidemment tout un processus continu de par l'interprétation de la Constitution. Et puis, par ailleurs, la Constitution a nécessairement une dimension constructive, comme dirait Jean Jusserl, c'est-à-dire une dimension institutionnelle. Elle crée des organes. Et elle procède à une répartition volontaire, pensée rationnelle des compétences entre ces différents organes pour créer une sorte d'équilibre des pouvoirs. On revient un petit peu à l'idée d'une constitution thèque, séparation des pouvoirs, répartition des fonctions. Alors on est toujours un petit peu dans cette idée. Pour Georges Sel, la constitution, elle est avant tout non écrite. Ce qui n'exclut pas qu'il y ait certains principes constitutionnels ou certaines institutions constitutionnelles qui soient créées par traité. Mais la base, la substance constitutionnelle internationale, elle reste non écrite, de nature coutumière. Cette position met en valeur deux éléments importants. La constitution, c'est le produit d'un processus et non d'une décision, contrairement à ce que soutient le courant constitutionnaliste. Donc même s'il y a un texte constitutionnel, au moment même où il est adopté, il est déjà dépassé. Et je reprends souvent aussi la pensée de Philippe Allot, qui parle de trois constitutions. Il y a la constitution légale, la constitution réelle et la constitution idéale. La constitution légale, c'est le texte, la constitution réelle, c'est la constitution telle qu'on la pratique aujourd'hui, et puis la constitution idéale, c'est la constitution telle que les acteurs du droit se la figurent et ce vers quoi, au fond, progressivement, la Constitution évolue. Deuxièmement, dans la conception de celle, la Constitution n'inclut pas forcément une dimension constructive ou institutionnelle. Il peut y avoir une Constitution qui n'institue pas d'organe. Il a besoin d'organes pour qu'il y ait Constitution et pour qu'il y ait ce que fait la Constitution, c'est-à-dire régir, poser les règles de la dévolution et l'exercice du pouvoir, et de l'exercice des fonctions sociales et élémentaires dans toute société, fonctions exécutives, législatives et juridictionnelles. Vous connaissez la réponse parce que c'est la partie la plus connue de la doctrine de Jean Jusserl, même un peu trop connue finalement parce que c'est un peu l'arbre qui cache la forêt, c'est le dédoublement fonctionnel, d'ailleurs une notion plutôt empruntée au droit administratif, au rôle du Conseil d'État, à savoir que cette idée que, dans la société internationale inorganique, sans organes, les fonctions sociales sont néanmoins exercées par les États. Ce sont les États qui exercent des compétences qui leur sont dévolues par l'ordre juridique international et qui, à travers ces compétences, remplissent les fonctions sociales qui s'imposent et qui doivent être remplies dans la société internationale. Alors, on voit donc que Sel pose les bases d'une théorie non constitutionnaliste de la Constitution et je pense qu'à partir de celle, on peut, en extrapolant un peu, élaborer une définition de la Constitution, donc il sera une définition fine de la Constitution. Il s'agit d'un ensemble de normes supérieures aux autres normes de l'ordre juridique et portant sur un double objet, la dévolution et l'exercice du pouvoir et l'accomplissement des trois fonctions sociales, législatives, juridictionnelles, etc. Donc voilà mon point de vue.
exactement 9 minutes.
9 minutes pour raconter ma théorie de la Constitution. Donc c'est beaucoup plus s'il en faut. Alors, presque. Non, il y avait la citation sur le développement fonctionnel, mais vous n'êtes pas oublié, et bien après, on peut la mettre pendant que je commence à parler, ça vous fera passer le temps. Voilà. Alors, petite esquisse d'une théorie non constitutionnaliste de la Constitution internationale, c'est évidemment une esquisse, encore une fois, je vous renvoie à cet article. Alors, d'abord, elle part, cette théorie, d'une critique de la théorie de Georges Sand. Pour moi, Georges Sand pose trois difficultés. D'abord, la théorie de Georges Sand demeure quand même prescriptive à un certain point, et non purement descriptive, dans la mesure où elle prétend bâtir le concept d'une constitution qui met en concordance la factualité du pouvoir, la contrainte, si vous voulez, la contrainte qu'exerce le pouvoir sur les personnes, la validité du droit, la légalité du droit, et troisièmement, la légitimité. Sont les trois composants, et celle prétend, à travers son concept de constitution, créer un système qui met systématiquement en concordance ces trois éléments, factualité du pouvoir, validité du droit et légitimité du droit. Autrement dit, ce qu'il vise quand même de manière prescriptive et de manière cachée sous le déguisement d'une théorie descriptive, c'est une théorie démocratique. Il est toujours en fait dans cet objectif de fonder une constitution qui est un caractère démocratique, parce que qu'est-ce que c'est que la théorie, justement, la constitution démocratique, c'est celle justement qui met en concordance la contrainte et les libertés, la contrainte et la légitimité à travers une règle de droit qui est à la fois valide, est à la fois légale et qui est en même temps légitime. Or, la théorie, c'est la deuxième difficulté. Je le sais, est en même temps contradictoire, parce que tout en prétendant assurer cette concordance entre factualité, légitimité, validité, elle affirme la primauté de la factualité sur la validité et sur la légitimité. Ça tient sous l'aspect de la théorie de Sen, la sociologie de la théorie de Sen. Je donne une citation qui donne tout de suite l'idée. Sen dit « Les gouvernements qui exercent ou contrôlent l'exercice des fonctions publiques sont en fait les individus qui détiennent une force matérielle. » Les forces matérielles, les armes, la richesse, tout le monde. Donc autrement dit, le gouvernement, c'est quand même toujours, fondamentalement, les plus forts qui gouvernent. Et du coup, on peine à voir comment s'effectue une concordance systématique entre factualité du pouvoir, de ce pouvoir qui est le pouvoir le plus fort, et légitimité du droit. Parce qu'en ce moment-là, on est face à un pouvoir, donc on sait que toute personne qui a le pouvoir est portée en abusé, on va nécessairement avoir un pouvoir le plus fort qui va abuser du droit, qui par conséquent produira un droit un droit peut-être valide, mais en tout cas non légitime. Il y a d'autres combinaisons possibles. Alors mon effort va consister à dépasser cette triple difficulté, d'une part en construisant une théorie non prescriptive, donc qui puisse décrire toutes les expériences constitutionnelles, et non pas simplement les expériences démocratiques, mais aussi les expériences dictatoriales, autocratiques. D'autre part, en construisant une théorie propre à l'expérience constitutionnelle du milieu international. Parce que je crois qu'aussi, ce qui manque fondamentalement, et c'était la troisième difficulté que j'avais, mais que j'ai oubliée, ce qui manque à Georges Sand, c'est de prendre en compte quand même la spécificité de ce milieu social, intersocial international, qui est le milieu international, qui n'est pas le milieu national, qui a une histoire différente et un mode d'évolution différent. Alors comment je m'y prends très brièvement je mobilise essentiellement, au fin de cette théorie, deux couples de concepts qui remplissent le rôle de chaîne, d'idéotype, pour reprendre l'expression weberienne. Il s'agit en fait de déterminer des polarités afin de pouvoir réaliser une sorte de cartographie de l'expérience constitutionnelle internationale. C'est très à la mode, mapping. Voilà, donc je fais un mapping de l'expérience constitutionnelle internationale. Alors quels sont ces deux couples? Et là, on peut passer au premier schéma. Voilà. Alors, premier couple, c'est autocratie-démocratie. Alors, c'est un couple que j'emprunte dans sa formulation, formation conceptuelle à Kelsen. Donc là, je suis totalement redevable à Kelsen. Kelsen dit, au fond, dans l'Antiquité, il y avait différentes classifications des régimes, mais fondamentalement, les expériences constitutionnelles, elles se situent entre deux pôles, autocratie-démocratie. L'autocratie, c'est le règne de l'hétéronomie, deuxième couple de concepts, le couple anarchie. Alors là, le coup anarchie, état fédéral, empire. Alors là, c'est un peu plus compliqué, je dirais, à expliquer en 1 minute 50. Mais là, là, je m'appuie sur Kant, sur la théorie pensée du droit, la théorie cosmopolitique de Kant, en particulier le projet de paix perpétuelle, avec cette idée et avec une théorie de la fédération qui est tirée de Kant, qui est également celle de Georges Russell, celle de Kelsen, qui dit qu'au fond, il n'y a pas de distinction classique entre confédération, fédération ou état fédéral. Il y a un continuum, il y a un processus continu, qui est ce que Kant décrit comme la sortie de l'état de nature des États, entre un état d'anarchie, c'est la société, c'est l'état de nature des États, c'est un état d'anarchie, et il y a un processus continu de sortie de l'état de nature, en Kant, je dis ça, c'est exactement ces termes, je dis plutôt là les termes kelsenien. Va jusqu'à une forme organisée comme autre polarité, comme autre idéal type, qui peut être l'État fédéral, qui peut être aussi l'Empire. Alors, ça demanderait un petit peu plus de détails sur ce que j'entends par l'Empire, mais grosso modo, si vous voulez, c'est une fédération non démocratique, pour le dire très très rapidement. Alors ça donne quoi? Ça donne là, une théorie du droit international, et c'est la troisième diapo, qui me reste 1 minute 50. Voilà, ça donne une théorie de la Constitution internationale qui s'organise autour de ces deux couples de concepts. Alors vous voyez qu'il y a un premier, donc il y a le premier axe qui en fait est l'outil utilisé pour comprendre la spécificité de la constitution internationale, la société de la constitution de la société internationale. La spécificité de la constitution de la société internationale, elle réside précisément dans cet encadrement entre ces deux polarités que sont l'anarchie et l'État fédéral ou l'Empire. Ces deux polarités, encore une fois, c'est deux idéologies. On n'est jamais dans l'un ou dans l'autre, on est dans un processus d'évolution qui va de l'un à l'autre. Et puis, par ailleurs, le deuxième type de concept permet de se figurer où on est, d'une certaine manière, la constitution internationale entre l'hétéronomie et l'autonomie. Est-ce que, au fond, on est plutôt du côté d'un système qui met en concordance la factualité, la validité et la légitimité, ou au contraire d'un système qui décoordonne la factualité, la légitimité et la validité. Alors, si vous voulez, ce dit, c'est qu'on peut faire un mapping, parce que alors moi, ce n'est pas mon travail, ce n'est pas mon métier, mais si on avait des mathématiciens avec nous, et qu'on leur donnait un certain nombre de critères opérationnels avec une grille de points, d'une certaine manière, on pourrait situer. Donc vous donnez, vous dites, la société internationale, c'est vrai qu'elle reste quand même essentiellement décentralisée, en même temps il y a une relative centralisation du mode de production du droit, sur le plan de on peut faire fonction par fonction, sur le plan de la fonction exécutive, il y a quand même une innovation extraordinaire qui est la création du Conseil de sécurité dans le domaine de la paix et de la sécurité internationale au sens très large, donc on a un organe exécutif mondial qui alors apporte à la fois, qui fait monter un peu fait monter un peu vers le haut, mais qui nous fait aussi pencher un peu vers l'autocratie, pas complètement, parce qu'il y a une dimension démocratique dans le Conseil de sécurité, quand on y pense, donc il faudrait quand même mesurer un peu tout ça de manière claire. Et donc on pourrait figurer d'une certaine manière là où on en est, là où on en était, et là où on en est aujourd'hui de la Constitution internationale, où se situe cette Constitution internationale. Alors j'ai écrit E, hétéronomie, I, hétéronomie, ça je pourrais revenir, mais ça veut dire qu'en fait, là, la problématique de l'hétéronomie et de l'autonomie, elle se dédouble d'une certaine manière, parce que c'est à la fois la question de l'hétéronomie et de l'autonomie pour les individus, i-autonomie, i-hétéronomie, et c'est la question de l'autonomie et de l'hétéronomie pour les États. Et au fond, il y a un dédoublement de la question de l'autonomie et de l'hétéronomie à travers ce schéma. Voilà, et je conclue simplement pour dire que, pour moi, on va y revenir, peut-être à quoi ça sert tout ça. Bon, dans d'autres de mes travaux, je me penche sur un certain nombre de chantiers constitutionnels, la création du Cour mondial des droits de l'homme, l'abolition de la régulation du droit de veto du Conseil de sécurité des Nations Unies, le statut d'une société civile internationale participative, statut participatif d'une société civile internationale. Ce sont des chantiers constitutionnels très concrets, des réformes très concrètes, où là, on redescend les mains dans le